Je lirai plusieurs textes dans le Nouveau Testament. Le premier texte se trouve dans la première aux Thessaloniciens. Et c'est vrai que je vais avoir du mal à lire. Ah, si tu veux lire, c'est mieux. Ou à moins que quelqu'un ait des lunettes à me prêter. C'est des lunettes. Ah non, 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 ça va être pire, je verrai double. Un Thessalonicien, même ça j'ai du mal. Un Thessalonicien, rococo. Voilà, un Thessalonicien. Alors, dans la première aux Thessaloniciens, au chapitre 5, les versets 9 à 26.
Tu as dit 9
Chapitre 5.
Verset 9
à 26.
D'accord. Car Dieu ne nous a pas destinés à subir sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous, afin que veillant ou dormant, nous vivions alors unis à lui. C'est pourquoi réconfortez-vous mutuellement. Et édifiez-vous l'un l'autre comme vous le faites déjà. Nous vous demandons, frères, d'avoir des égards pour ceux qui parmi vous se donnent de la peine pour vous diriger dans le Seigneur et pour vous reprendre. Ayez pour eux la plus haute estime, avec amour, en raison de leur travail. Vivez en paix entre vous. Nous vous y exhortons, frères, reprenez ceux qui vivent de manière désordonnée. Donnez du courage à ceux qui en ont peu. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien entre vous et à l'égard de tous. Soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les dons de prophétie, examinez tout avec discernement, retenez ce qui est bon, tenez-vous à l'écart de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie totalement et que votre esprit, votre âme et votre corps soient parfaitement gardés pour être irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous appelle est fidèle, c'est lui qui encore agira. Frères, priez aussi pour nous, saluez tous les frères d'un saint baiser, je vous en conjure par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.
Et dire qu'il y en a qui disent que dans les églises, ça ne bouge pas. Vous pourrez leur dire qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ont bougé. Merci. Dans les Philippiens, je vais y arriver. Voilà. Au chapitre 2, à partir du verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours été obéissants, soyez-le non seulement en ma présence, mais bien plus maintenant en mon absence. Avec crainte et tremblement, mettez en œuvre votre salut, car c'est Dieu qui fait en vous et le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Agissez en tout sans murmure ni réticence, afin d'être sans reproche et sans compromission, enfants de Dieu, sans tache, au milieu d'une génération dévoyée et pervertie, où vous apparaissez comme des sources de lumière dans le monde, vous qui portez la parole de vie. C'est ma gloire pour le jour du Christ, puisque je n'aurai pas couru pour rien, ni peiné pour rien. Avant-dernière lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, les versets 1 à 11. Après cela, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment les choses se passèrent. Simon-Pierre, Thomas, qu'on appelle Didyme, Nathanaël de Cana, de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans la barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. C'était déjà le matin lorsque Jésus vint se placer sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit « Hé, les enfants, n'avez-vous pas un peu de poisson ?»« Non, lui répondirent-ils. » Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent et il y eut tant de poissons qu'ils ne pouvaient plus le ramener. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre « C'est le Seigneur. » Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre saignit un vêtement car il était nu et il se jeta à la mer. Les autres disciples revinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons. En fait, ils n'étaient pas bien loin de la rive, à 200 coudées environ. Une fois descendus à terre, ils virent un peu de braise sur lequel on avait disposé du poisson et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc ces poissons que vous venez de prendre ». Simon-Pierre remonta donc dans la barque, il tira à terre le filet qui était rempli de 153 gros poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Je termine avec le début du livre des Actes au chapitre 2. À partir du verset 42. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte gagnait tout le monde. Beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissaient par les apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous, selon les besoins de chacun. Unanimes, ils se rendaient chaque jour assidûment au temple. Ils rompaient le pain à domicile, prenant leur nourriture dans l'allégresse et la simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et trouvaient un accueil favorable auprès du peuple tout entier. Et le Seigneur adjoignait chaque jour à la communauté ceux qui trouvaient le salut. On nous dit que notre société est post-chrétienne. Ce sont des sociologues qui nous disent ça, et qui nous le disent peut-être avec un petit sourire en coin. Ils nous laissent entendre que le phénomène religieux est absorbé maintenant par la société, digéré, réduit, en d'autres termes, qu'il n'est peut-être plus d'actualité. C'est vrai que les églises comptent de moins en moins de membres et surtout sont de moins en moins visibles, absentes des journaux, absentes des radios ou presque, absentes des télévisions, donc rendues muettes. rangés au fond des accessoires qu'on utilise quand c'est considéré encore comme utile, pour les ensevelissements, pour les mariages, pour les baptêmes, et sans être méchant avec qui que ce soit, dans l'ordre décroissant. D'abord les ensevelissements et à la fin les baptêmes. En fait, quand c'est considéré comme une bonne occasion de faire une fête ou un rassemblement. La religion est réduite à la sphère privée au nom d'un laïcisme militant, soi-disant républicain. Post-chrétienne, notre société l'est devenue. Il n'y a qu'à observer ce qui se passe. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi c'est devenu comme cela. Je n'en suis pas capable. Qui plus est, je ne veux pas donner le sentiment de porter des jugements sur qui que ce soit. J'ai seulement quelques pistes de réflexion, non pas pour expliquer le passé, mais, Dieu voulant, pour ouvrir des portes vers un avenir. Et les textes bibliques de ce matin nous offrent de quoi réfléchir. Tout d'abord, il y a une constante dans les épîtres de Paul, en dernier chapitre en général. Lorsqu'après avoir mis le doigt sur ce qui va plus ou moins bien à Éphèse, à Corinthe, à Thessalonique, à Rome ou ailleurs, après avoir rappelé les bases de l'évangile du Christ, les fondamentaux de la théologie chrétienne, il parle de la vie des églises. Et cette constante, ce refrain, c'est « les uns les autres ». Écoutez, nous sommes membres les uns des autres. Soumettez-vous les uns aux autres. Usez de prévenances réciproques les uns envers les autres. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ayez soin les uns des autres, ne vous plaignez pas les uns des autres, supportez-vous les uns les autres, ne nous jugeons pas les uns les autres, portez les fardeaux les uns des autres, etc., etc. J'en ai relevé une vingtaine et je ne suis pas sûr d'avoir fait la liste complète. Que nous dit Paul quand il s'adresse ainsi aux communautés à qui il envoie ses lettres? Bien sûr, il dit que le chrétien est un être dépendant de Dieu. Mais il ajoute aussi qu'ils sont dépendants, les chrétiens, les uns des autres. Ceux qui sont avec lui dans l'Église sont dépendants du chrétien. Le chrétien, il n'est pas seulement fraternel, pas seulement avec les autres, mais il est dépendant des autres. Ce n'est pas facile à admettre. La fraternité chrétienne n'est pas seulement une vertu à cultiver, n'est pas seulement un objectif à atteindre. La fraternité chrétienne, c'est une situation, c'est un état, c'est une réalité, que nous le voulions ou non. La fraternité est un état. Le chrétien est fondamentalement dans la réciprocité. Sans les autres, il n'est rien ou presque. Et c'est bien ce que dit l'image du corps utilisée par Paul dans l'Épître aux Romains. Nous formons un seul corps en Christ, un corps. Mais je nous connais parce que je me connais. Nous préférons entendre dans le même texte que nous avons des dons différents, que nous sommes tous des membres différents, qui un œil, qui une main. Moi, je suis un œil ou moi, je suis une main. Ça me rassure, je suis quelqu'un. Non, c'est pas ça qu'il faut entendre. C'est nous sommes un corps tous ensemble. Et j'ai le sentiment, frères et sœurs, qu'on a trop souvent oublié de prêcher le thème de la communauté chrétienne. Cette communauté qui réunit des personnes différentes, appelées à découvrir cette interdépendance que Paul exprime dans son refrain « les uns les autres ». Au contraire, nous sommes influencés par le monde et son individualisme, et on nous a prêché la vertu personnelle, on nous a prêché la morale personnelle, le salut personnel, la piété personnelle, l'engagement personnel au nom de l'Évangile. L'engagement personnel, oui, pas communautaire. On a considéré le culte comme le lieu de ressourcement personnel nécessaire avant l'envoi dans le monde, avant l'envoi de chacun d'entre nous. Ce n'était sans doute pas faux, mais c'est la communauté réunie qui est envoyé dans le monde. C'est la communauté unie qui témoigne dans le monde. Nous sommes, dit Pierre dans sa première épître, une communauté de prêtres appelés à intercéder pour le monde. Nous sommes un peuple, nous dit-il, appartenant à Dieu pour proclamer ses œuvres magnifiques. Nous sommes, et non pas moi-je. Dans une société où l'individualisme de chacun pour soi règne en maître, où la réussite s'obtient en écrasant les autres, on a oublié que l'Église n'est pas de ce monde. On a oublié que l'Église ne peut pas, ne doit pas se conformer au monde présent. Comme Paul nous le dit dans les Romains au chapitre 12, « Ne vous conformez pas au monde présent ». Il ne me dit pas « Ne me conforme pas ». Il nous dit « Ne vous conformez pas, ne nous conformons pas au monde présent ». Oui, que faut-il en tirer ? Une conviction, l'Église est communautaire, sera communautaire ou disparaîtra dans la dilution dans la société. Il faut que partout où cela est possible, les chrétiens redécouvrent la vie communautaire telle qu'elle nous est décrite dans le livre des Actes. Même si 2000 ans se sont écoulés depuis cette période, le modèle est dans le chapitre 2 du livre des Actes, c'est à partir de lui qu'il faut aujourd'hui réinventer les nouvelles communautés chrétiennes qui donneront vie aux églises affaiblies. L'Église n'est pas une communauté le dimanche matin, lorsque nous sommes rassemblés pour le culte et séparés les uns des autres pendant le reste de la semaine. L'Église, ce n'est pas seulement le dimanche matin ou le mercredi soir, pendant la réunion de prière ou l'étude biblique. L'Église, c'est beaucoup plus que ces réunions et ces rassemblements. C'est la mise en œuvre de tout ce que Paul demande aux églises de son époque. C'est la mise en œuvre du « les uns les autres ». L'Église, ce n'est pas seulement « qu'est-ce que l'on me donne ?», mais d'abord « qu'est-ce que je donne aux autres ?». Oui, me direz-vous peut-être, communauté, on veut bien. Mais pourquoi ? Pourquoi pas en un mot ? Pourquoi en deux mots ? C'est-à-dire, pour quel objectif ? Vous le savez, l'Église a une vocation. Montrer au monde qui ne le connaît pas, qui est ce Dieu que nous adorons, que nous glorifions. Montrer en quoi la vie est différente quand on est chrétien. Ce que cela change, ni plus ni moins. Si, devenus chrétiens, nous vivons comme les non-chrétiens, quel est l'intérêt ? Si nous ne montrons rien d'autre, à quoi ça sert ? Dans une société individualiste, c'est l'aspect communautaire de la vie chrétienne qui peut interpeller. Pas seulement notre moralité individuelle, notre honnêteté, ni même notre amour pour les autres. Et c'est vrai, il y a beaucoup de non-chrétiens qui peuvent être cela autant que nous qui sommes chrétiens. Et quelquefois même, je dois l'avouer, il y a des non-chrétiens qui sont plus aimants que nous, chrétiens. De même que la vocation d'Israël était d'être le peuple de Dieu dans un monde païen, avec une façon de vivre différente des autres peuples, l'Église est cette communauté qui a pour vocation de témoigner dans un monde païen par sa façon de vivre particulière, de témoigner du Dieu créateur, du Dieu de justice et d'amour, qui a choisi Israël comme peuple, du Dieu qui s'est incarné en Jésus, le Christ, son Fils, du Dieu qui veut nous sauver de notre situation de perdition, du Dieu de la crucifixion et de la résurrection, du Dieu qui nous accueille comme ses enfants bien-aimés et nous fait vivre de son esprit. Voilà ce que je comprends, frères et sœurs, de la vocation de l'Église en tant que communauté. Ce n'est pas simple, mais c'est à cela, je le crois, que nous servons ensemble. Témoins ensemble, c'est là notre vocation. Et j'ose dire, c'est certainement parce que nous le faisons mal ou pas très bien que l'Église rencontre tant de difficultés. Je fais une petite parenthèse, ce n'est pas dans mon texte, mais quand je rencontre des non-chrétiens et que j'arrive à parler de l'Évangile, de Dieu, c'est toujours aux églises qu'on fait des reproches. trop ceci, pas assez cela, engagée dans ceci alors qu'elle ne devrait pas y être, etc., etc. Mauvais témoignage. Je ne dis pas, frères et sœurs, que le témoignage a pour fonction de remplir l'Église. Je ne dis pas que si nous sommes de bons et de fidèles témoins du Christ, nous en tirerons des bénéfices d'une manière ou d'une autre, que l'Église se remplira. Non. Notre témoignage doit être gratuit, comme l'amour de Dieu pour nous est gratuit. Je relisais dernièrement dans la Genèse ce qui pourrait apparaître comme l'institution de la dîme en Israël. Jacob dit à Dieu, tout simplement, « Je te donnerai la dîme, 10% de tout ce que tu me donneras. » Simplement, « Je te donnerai. » Donner à Dieu 10% de ce que nous avons reçu de lui. Or, qu'avons-nous reçu ? Nous avons reçu la vie. Nous avons reçu la vie éternelle, frères et sœurs, ne l'oublions jamais. À ceux qui croient en Jésus, son Fils unique, Dieu, par amour, a donné la vie éternelle. Voilà ce qui est écrit pour nous dans l'Évangile de Jean. Et c'est de cela qu'il nous faut témoigner en Église, en communauté chrétienne, dans notre vie de communauté chrétienne. Nous le ferons peut-être seulement à 10%, mais c'est notre vocation, rendre à Dieu une partie de ce qu'il nous a donné, une partie de notre vie, une partie de notre vie éternelle. Dernièrement, j'ai entendu une prédication sur l'apôtre Pierre qui m'a interpellé et m'a conduit un peu à choisir le thème de la prédication d'aujourd'hui. En quelques mots, je la résume. Pierre est un pêcheur de poissons dans la région de Tibériade en Galilée. Il pêche dans le lac de Tibériade pour gagner sa vie et faire vivre sa famille. C'est son métier. C'est dans ces conditions qu'il est appelé par Jésus à devenir disciple. « Suis-moi » pour être, le moment venu, pêcheur d'hommes, apôtre, évangéliste, je ne sais pas quel est le meilleur mot. Deux évangiles nous décrivent une séance de pêche. Luc, avant la résurrection de Jean, de Jésus, pardon, l'autre, dans Jean, après la résurrection. C'est le texte que j'ai lu tout à l'heure. Dans le premier cas, le filet se rompt. La pêche est difficile. Dans le second cas, le filet ramène 153 gros poissons. Une pêche miraculeuse. Que faut-il comprendre ? Dans le premier cas, c'est avant la croix et la résurrection. Jésus ne peut pas faire grand-chose. Dans le second cas, après la croix et la résurrection, je me suis trompé, j'ai dit Jésus, et c'était Pierre. Pierre ne peut pas faire grand-chose. Dans le second cas, après la croix et la résurrection, Pierre et ses compagnons ont reçu le Saint-Esprit, dont je rappelle qu'ils fondent l'existence même de l'Église. Ils sont dans un état de réussite totale. Pourquoi ? Parce que le filet est solide. Image de l'Église, peut-être. Et ce qui fait la solidité d'un filet et sa capacité à pêcher du poisson, ce sont les nœuds. Les nœuds qui unissent les fils du filet. Chacun de nous est un fil, frères et sœurs. Et il nous faut construire les nœuds qui feront de nous ensemble, non pas un tas de fils, mais un filet apte à pêcher beaucoup de poissons. Il me semble que l'on retrouve ici le point de départ de la méditation d'aujourd'hui. La pêche miraculeuse est une prophétie de ce que l'Église aura à réaliser. Les nœuds dont il est question peuvent être regardés comme l'image des relations fortes que Paul encourage les chrétiens à entretenir, à nouer entre eux. Et on retrouve ainsi la formule « les uns les autres ». Pour terminer, je reviens au texte qui décrit la première communauté dans le livre des Actes. On y lit que les premiers chrétiens étaient assidus à l'enseignement des apôtres, comme nous certainement, assidus à la fraction du pain et aux prières, comme nous sans doute, mais il y a aussi cette autre idée, ils étaient assidus à la communion fraternelle. Et pour être clair, le rédacteur des Actes précise cette idée dans les versets suivants, avec des mots comme union, unanimité, communion, et mise en commun. Je le sais bien, cela nous semble idéalisé, et beaucoup de commentateurs l'ont dit avant moi. Cela nous semble bien impossible à vivre. Mais pourtant, Ce passage du livre des Actes est là pour nous interpeller. Écoutez la conséquence. Ils trouvaient un accueil favorable auprès du peuple tout entier, et le Seigneur adjoignait chaque jour à la communauté ceux qui trouvaient le salut. Amen.